Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
Ah oui.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Les stars mondiales de la musique étaient réunies cette nuit à New York pour la cérémonie de remise de prix des Grammy Awards. Notre correspondant Philippe Corbet a suivi cette 60e édition. On le rejoint dans un tout petit instant. À suivre, les confidences de deux stars hollywoodiennes, Kate Winslet et Justin Timberlake, à l'affiche dès mercredi du nouveau Woody Allen. Stéphane Boutsock les a rencontrés. L'auteur Jean Tellet nous présentera, en compagnie de Bernard Lehu, son tout nouveau roman, Entrée dans la danse, qui paraît jeudi prochain. Nous vous l'offrirons en avant-première au 32-10. Et puis à la télévision ce soir, la chaîne d'infos en continu BFM TV propose pour la première fois un documentaire qui a tué François Fillon. L'enquête, 52 minutes sur la descente aux enfers du candidat à la présidentielle. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morelli-Bosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Nous ne reculons devant rien, on part directement à New York, où se tenait cette nuit, bah oui, on a des moyens, les Grammy Awards. Bonjour Philippe Corbet.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Le grand vainqueur s'appelle Bruno Mars.
Oui, tiercé gagnant, il repart avec les trois récompenses les plus prestigieuses. Meilleure chanson, That's What I Like, meilleur album et meilleur enregistrement pour 24K Magic. Carton plein donc pour Bruno Mars, déception pour Kendrick Lamar qui se console avec les récompenses les plus importantes pour le rap, mais aussi Jay-Z, le mari et producteur de Beyoncé, et Luis Fonsi qui a quand même pu chanter sur scène son tube de l'année Despacito.
Alors, vous parliez du rappeur Kendrick Lamar. C'est lui qui décroche le Grammy du meilleur clip. Aux dépens de la française, on prononce Jane, hein, j'ai toujours un doute. Mais oui, c'est aussi lui qui a donné le ton très politique de cette soirée. Philippe.
Devant un grand drapeau américain pour dénoncer le racisme contre les Noirs. Il y a eu aussi de nombreuses références au mouvement des femmes. Beaucoup de participants portaient des roses blanches. La chanteuse Keisha a interprété un titre où elle raconte des violences sexuelles que son producteur lui a fait subir. Il a tenté de briser sa carrière. Beaucoup d'internautes se sont étonnés que Ed Sheeran remporte le Grammy pour le meilleur solo pop et pas elle. Un seul prix a récompensé une femme dans la soirée. Meilleure révélation pour Alessia Cara. Et puis impossible d'énumérer toutes les références à Donald Trump. On a même vu dans un sketch Hillary Clinton lire dans un studio d'enregistrement un texte sur le président en espérant obtenir un Grammy pour ça. Une chanteuse dreamer, comme on dit ici, c'est-à-dire qu'elle est arrivée enfant avec des parents immigrés et montée sur scène pour annoncer une chanson de U2, le groupe irlandais, en plein air, dans le port de New York, au coucher du soleil, devant la Statue de la Liberté, symbole de l'accueil des migrants. Un appel, je cite, à la résistance. Bono tenait comme un défi un porte-voix aux couleurs du drapeau américain. Ça n'a pas plu à l'ambassadrice américaine à l'ONU, une figure clé de l'équipe Trump à qui on prête des ambitions présidentielles. Elle a tweeté « Ne ruinez pas la musique avec du trash ».
Philippe, on précise qu'on retrouve tous les moments forts des Grammy Awards sur notre site rtl.fr. Hein.
Et notamment le premier Grammy posthume pour Leonard Cohen, meilleure performance rock. There's a lover in the story, but the story's still the same. La reprise de Clapton par des chanteurs de country en souvenir des victimes de la tuerie de Las Vegas. Elton John en duo avec Miley Cyrus. Sting. Rihanna et DJ Khaled avec une super chorégraphie que vous allez voir sur les réseaux sociaux. Les Grammys ont brièvement rendu hommage à Johnny Hallyday qui figurait dans la liste des grands artistes disparus dans l'année, au même titre que les légendes du rock, Fats Domino et Chuck Berry, salués par cette belle reprise. Et puis la chair de poule pour un hommage au grand compositeur et chef d'orchestre Leonard Bernstein par l'acteur de Broadway Ben Platt. West Side Story, la preuve que les grandes chansons sont éternelles.
Merci beaucoup Philippe Corbet. Les derniers moments ont été absolument magnifiques avec cette suite de chanteurs. Et puis je précise que Sting présidera le 9 février prochain notre cérémonie des victoires de la musique. Merci beaucoup. Vous interveniez bien entendu en direct de New York. Alors c'est une tradition depuis plus de 50 ans. Chaque année, Woody Allen nous propose en fait son nouveau film. Le millésime 2018 s'appelle Wonder Wheel. Bonjour Stéphane Boutier.
Bonjour à tous.
Vous avez rencontré Kate Winslet et Justin Timberlake, les deux acteurs principaux. Mais avant de les entendre, il faut dire un mot du contexte alors extrêmement particulier qui entoure la sortie du film.
Oui, puisque Dylan Farrow, la fille adoptive de Woody Allen, l'a de nouveau accusé ces derniers jours d'agression sexuelle. C'est une affaire qui revient régulièrement depuis maintenant 25 ans, pour laquelle, il faut le préciser, Woody Allen n'a pas été poursuivi. Des expertises médicales qui se sont étalées sur 20 mois ont même démenti les déclarations de Dylan Farrow. Reste que, dans le climat actuel, plusieurs actrices et acteurs qui ont tourné avec lui ont publiquement déclaré qu'ils le regrettaient et même appelé leurs camarades à ne plus accepter de rôle dans ses films. Je précise que ni Kate Winslet ni Justin Timberlake n'ont pour l'instant pris position et surtout que je les ai rencontrés en novembre dernier, donc avant cette nouvelle polémique.
Alors cette mise au point étant faite, on revient au cinéma et à Wonder Wheel. Quelle est l'histoire du film, Stéphane ?
On est dans les années 50 à Coney Island près de New York, dans un parc d'attractions près de la plage où Ginny, ancienne actrice devenue serveuse, mariée à Humpty, voit ressurgir dans leur vie leur fille Caroline, qui est en fuite, elle est poursuivie par des mafieux. Caroline va tomber amoureuse de Mickey, un maître nageur, et elle ignore que sa mère entretient déjà une liaison avec le jeune homme. Alors, dit comme ça, ça ressemble à un vaudeville. Sauf que Woody Allen en a fait un véritable drame, un théâtre sur le désespoir amoureux, digne de la tragédie grecque. Il y a peu de bons mots, vous savez, les bons mots auxquels on est habitué chez Woody Allen. La lumière, les décors, tout est pensé comme pour une pièce, mais formidablement mise en scène pour le cinéma. Côté casting, donc Kate Winslet, la star de Titanic, trouve ici un de ses meilleurs rôles avec un personnage constamment sur le fil.
L'enjeu pour moi était d'essayer de la rendre réelle sans en faire trop. Jenny est un personnage qui vit de grandes émotions, elle a des migraines, elle boit, elle fume, son fils est pyromane, elle voulait devenir actrice, elle a une liaison avec un maître nageur. Bref, tout cela suggère des réactions démesurées et je voulais incarner cela car il fallait qu'elle soit intéressante à suivre pour le public, mais surtout pas fatigante. Pousser le curseur au bon niveau a été pour moi le plus grand challenge.
L'amant de Jenny, le beau maître nageur, est donc interprété par Justin Timberlake, formidable, de justesse, de rythme, dans un film où le texte offre plusieurs morceaux de bravoure à ses comédiens. Je lui ai demandé s'il avait été facile de s'approprier le langage, vous savez, ce phrasé si particulier de Woody Allen.
Woody is a musician.
Woody est un musicien et l'étant moi-même, j'ai clairement ressenti son sens du rythme en lisant le scénario. J'entendais dans ma tête le tempo de mes Woody Allen préférés. C'est particulièrement vrai dans les scènes où je suis à la plage et où je parle à la caméra. Elles étaient très rythmiques. C'est du jazz, et un musicien de jazz doit jouer avec les autres. Quand le bassiste paume le batteur, ça s'entend. C'est pareil avec ses dialogues, ils ont une cadence particulière, et si vous le suivez, ça devient très poétique.
Justin Timberlake, comme Kate Winslet d'ailleurs, sont de nouveau venus dans la très très longue liste des acteurs ayant tourné pour Woody Allen.
Alors on va voir comment ça va se passer à l'avenir, mais jusqu'ici, le réalisateur new-yorkais, c'est vrai, a tourné avec quasiment toutes les grandes stars, même si parfois, il a fallu attendre pour que la rencontre ait vraiment lieu. Écoutez Kate Winslet.
Bien sûr que c'était un rêve, mais je pensais l'avoir laissé passer il y a une douzaine d'années. Il m'avait proposé plusieurs films, mais je n'étais pas libre. Je venais d'avoir un bébé et ma vie ne m'appartenait plus assez pour aller travailler à cette époque. Donc, je me suis dit, tant pis. J'ai mis ça de côté et j'allais voir les films de Woody Allen en me disant, oh, c'est dommage, parce que j'aurais adoré en faire au moins un. Jamais je n'aurais imaginé qu'il me le repropose. Et j'en ai été éblouie. Quant à mon premier film de Woody Allen, je ne suis pas sûre de m'en souvenir. Mais tout ce que Diane Keaton a fait avec lui a été très inspirant pour moi en tant qu'actrice. Il y a quelque chose de très libre dans ses performances. Elle incarne de vraies personnes. She plays real people.
Et si on pense à Diane Keaton, on pense évidemment à cette musique de Gershwin, l'hymne de Manhattan, 1975.
Elle vient de citer Annie Hall, hein, là.
Absolument. Tout à fait. Et ça tombe bien parce que Justin Timberlake place ce film de 75, Manhattan, tout en haut de son panthéon Woody Allenien.
Je crois que Manhattan a été le premier quand j'étais ado. Mais vous savez, si nous n'avions que les films de Woody Allen à regarder, nous aurions un parfait résumé de ce qu'est le cinéma. Il a son propre univers, un monde passionnant. Pour moi, c'est un hommage à l'époque où des gens comme Kazan, venus de la scène, essayaient de traduire pour le cinéma et la caméra l'émotion du théâtre. Donc faire ce film, c'était comme jouer une pièce, et je ne crois pas que ce soit un hasard si ça se passe dans les années 50 et que le film ressemble à ceux de l'époque.
Mais au fait, comment est-on engagé sur un film de Woody Allen ? Eh bien, voici comment les choses se sont passé pour Justin Timberlake.
Je l'ai rencontré brièvement à Cannes lors d'un dîner au restaurant et c'était embarrassant car son attaché de presse me disait « Il faut que tu vois, vas-y !» Il était en train de manger, m'a vaguement regardé et je me suis dit « Oh merde, non !» Et puis quelques mois après, j'ai reçu un appel me demandant d'aller rencontrer Woody à New York parce qu'il pensait à moi pour un film. Ce jour-là, il m'a tendu la première scène, c'était un monologue de 2 pages.
Il faut dire que croiser ça nous est arrivé à tous les deux. Oui. Croiser le regard de Woody Allen peut parfois être un petit peu perturbant.
Un petit peu déroutant.
Voilà, un petit peu déroutant. Alors on va revenir à Kate Winslet. Pour finir, Stéphane, son personnage rejoint la longue liste des femmes fatales des films de Woody Allen.
Oui, pour moi, sa performance est comparable à celle de Kate Blanchett dans Blue Jasmine. Mais on pense aussi évidemment à Mia Farrow dans Un Assesseur, à Charlotte Rampling dans Stardust Memories, à Scarlett Johansson dans Vicky Cristina à Barcelona ou à Marion Cotillard dans Minuit à Paris. Question à Kate Winslet. A-t-elle l'impression de rejoindre le club des héroïnes mythiques de Woody Allen?
Je ne souhaite pas spécialement faire partie d'un club, parce que dans ce cas, vous êtes obligé de faire les choses selon certaines règles. Mais en revanche, j'ai ressenti une énorme pression à jouer ce rôle dans un film de Woody Allen, à cause de toutes ces femmes qui m'y ont précédé, et aussi parce qu'il écrit merveilleusement pour les femmes. Mon enjeu était de livrer la bonne performance, de faire du bon boulot, parce que toutes les autres l'ont fait. Il fallait que je sois au niveau et la barre était assez haute.
La bande originale de Wonder Wheel avec Kate Winslet, Justin Timberlake, mais aussi James Belushi, tiens, un revenant, et Juno Temple. Woody Allen a déjà tourné son prochain film qui s'appelle pour l'instant Un jour de pluie à New York. Reste à savoir s'il pourra sortir normalement, certains de ses acteurs ayant déjà annoncé qu'ils n'en feraient pas la promotion.
Déphasé, hein, parce qu'on vit cette situation particulière.
C'est bizarre,
le
hein
cinéma de Woody Allen continue à vivre, ce qui est tout à fait normal avec des moments d'émotion formidables. Et puis cette espèce de torrent qui est en train de continuer de descendre, notamment sur tous nos artistes de cinéma. Merci beaucoup Stéphane Boutsock. On a passé un moment de curiosité à découvrir ce film et ses acteurs. Dans quelques instants, beaucoup de curiosité aussi pour Jean Tellet et son dernier roman, Entrée dans la danse. Il paraît chez Julliard. Nous serons avec Bernard Lehuche.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
C'est une véritable avant-première. Bernard Lehuche, Jean Tellet publie jeudi chez Julliard son nouveau roman Entrez dans la danse. Pour Laissez-vous tenter, vous avez donc rencontré l'auteur.
Et oui, et comme à son habitude, Jean Tellet sort des oubliettes de l'histoire, un épisode absolument incroyable et pourtant totalement authentique. Nous sommes au début du XVIe siècle. Tout commence une fin de matinée dans une rue de Strasbourg. Jean Tellet vous raconte la suite.
La rue du jeu des enfants. Quel nom de rue génial! Et cette rue existe toujours. Et c'est là que, effectivement, le vendredi 12 juillet 1518, donc il y a 500 ans cette année, vers midi, une femme s'est mise à danser dans la rue. Et puis des gens sont approchés d'elle, se sont mis à danser, et la danse est devenue contagieuse. Et ça s'est répandu, ils ont été d'abord des dizaines, puis des centaines dans le quartier, puis ça s'est répandu partout dans la ville, et ça a été un bordel sans nom. Les gens pouvaient plus s'arrêter de danser. Ils dansaient nuit et jour, pendant des fois des semaines et tout. Ils avaient les pieds en sang, les cartilages apparents et tout. Ils étaient pris dans une transe totale, et je pense qu'il y a un peu plus de 2000 morts, quoi, sur une population de 15 000 habitants. Et le maire de la ville se disait, mais putain, mais comment on arrête ce bordel? Et ça s'est terminé le 29 septembre. Donc ça a duré 2 mois et demi, cette
crise. Ce qui est drôle, c'est merveilleux. Alors c'est ahurissant, cette histoire. Hein.
Oui, une fièvre de danse jusqu'à l'épuisement et la mort. Aujourd'hui encore, son origine reste un mystère absolu. Mais s'il y a des explications à trouver à cette forme d'hystérie collective, elles sont à chercher pour Jean Tellet du côté de l'extraordinaire contexte de l'époque à Strasbourg et dans ses environs.
Tous ces gens-là étaient dans un état de désespoir total. En 2-3 ans, ils ont eu toutes les catastrophes. Les catastrophes météorologiques, les arbres fruitiers fleurissaient en janvier, en mars arrivait une grêle qui détruisait tout. Des météos absolument catastrophiques. Donc, plus de plantes, plus d'animaux. Dans Strasbourg, on trouvait plus un chien, plus un chat, plus un rat. Tout avait été bouffé. Ils se sont chopés toutes les maladies. Tout d'un coup, la lèpre, le choléra, la peste, tout a déboulé. La syphilis a déboulé en 1518 à Strasbourg. Une maladie qui est extrêmement rare. C'est même la dernière fois qu'elle est apparue sur Terre. Une maladie qui s'appelait la suette anglaise. Vous chopez ça, 2 jours après, vous êtes mort. Tout leur est tombé dessus. Il aurait même tombé une météorite et tout. Les gens disaient, mais si même les étoiles se mettent à nous chier sur la gueule, quoi. Donc, ça a été dans cette pagaille incroyable que ça s'est passé. Et ce phénomène de danse n'est jamais arrivé avant et n'est plus jamais arrivé après sur Terre.
La frénésie de la danse.
Je serais presque à vouloir que ça recommence un peu.
Enfin, oui, pour voir. J'aimerais pas être à la place des Strasbourgeois de l'époque quand même.
Bah non,
et donc, cette frénésie de la danse comme exutoire au malheur, c'est incroyable, le tout. Et alors, c'est une autre dimension historique passionnante du livre de Jean Tellet, sur fond d'affrontement entre le maire de la ville, soucieux de protéger sa population, et l'Église qui crie à la punition divine et n'intervient pas.
Ils avaient les curés des greniers emplis de nourriture et tout qui refusaient de distribuer parce qu'ils voulaient spéculer. En plus, c'était le moment où on construisait Saint-Pierre de Rome, la basilique, et le clergé voulait absolument que les Strasbourgeois achètent des indulgences. Les indulgences, c'était une belle saloperie, ce truc-là. Comme quoi, si on donnait de l'argent, ça vous retirait du temps de purgatoire ou du temps d'enfer. Et les gens, n'ayant plus du tout d'argent, étaient menacés par le clergé d'être enterrés hors des remparts sur une colline qu'on appelle la colline du bourreau, qui était une terre non bénite. Donc ça voulait dire qu'après c'était l'enfer pour tout le temps, quoi.
Bon, alors toute cette histoire est quand même terrible, même si on en sourit. Est-ce que Jean Tellet parvient, comme à son habitude, à le raconter avec humour?
Un seul exemple, bien sûr, un seul exemple. Quand la cathédrale de Strasbourg, gagnée par l'épidémie de danse, vire sous la plume de Jean Tellet au nightclub, la nef au dance floor et sous la lumière des vitraux transformée en boule à facettes.
Ben oui, parce que moi je me dis, là, moi quand j'écris un roman, je m'adresse pas aux gens du début du 16e siècle, ils sont tous morts. Je m'adresse à des...
Ah bon ?
Oui, je vous assure. Et donc je m'adresse à des gens de maintenant. Et c'est vrai que toute cette histoire de danse, je dis souvent, ça a été la première rêve partie qu'il y a eu au monde. La plus grande et la plus dingue. Et donc moi j'aime bien toujours mêler des mots modernes aux mots de l'époque, évidemment. Ouais.
Alors, tout de même, pour finir, j'ai demandé à Jean Tellet, si drôle dans la vie et dans sa façon de s'exprimer, on vient encore de l'entendre, l'origine de son attirance pour des histoires plutôt tragiques ou macabres. Confidence étonnante de l'artiste.
Oui, mais je crois que ça vient de ma mère. Elle n'aime pas que je dise ça. Quand j'étais môme, elle me racontait des histoires horribles. Et ça me terrifiait, mais je crois que ça m'a marqué au fer rouge. Et je suis toujours attiré par des histoires complètement barjot et tout. Et plus c'est catastrophique, plus j'aime mettre de l'humour dedans. Parce que dans ce livre, j'espère qu'il y a des moments où on rigole. Et j'aime mettre des bêtises rigolotes parce que, de toute façon, il faut savoir rire de ce qui n'est pas drôle. Et moi, je dis aussi souvent que Jeanne d'Arc, quand elle était sur son bûcher, une fois qu'elle avait fini de pisser pour essayer d'éteindre les flammes, à part se marier, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Et voilà, c'est une philosophie de vie.
Merci à Madame Tellet, d'avoir raconté des histoires pareilles à son petit garçon.
Donc, Jean Tellet, le philosophe rieur qui publie jeudi, hein, jeudi prochain aux éditions Julliard. Entrez dans la danse. Allez, chaussez vos ballerines et suivez-le, vous ne serez pas déçus.
Ah ça, il est sûr qu'on n'est pas déçus avec Jean Tellet. Alors on vous offre ce matin, en avant-première, ben, le dernier roman de l'auteur, si vous répondez à la question de Bernard Lehut.
Dans quelle ville se déroule Entrez dans la danse?
Dites-nous, qu'est-ce que vous êtes... Vous êtes vraiment gentil, vous.
C'est son fond.
Il a bon fond, vous croyez?
Oui, oui.
Bon, allez, réponse au 32-10.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nous allons maintenant parler télévision, à commencer par nos audiences du week-end, Isabelle Morelli-Bosse.
Eh bien, vendredi, jeu égal entre le polar de la Deux Chérifs et la spéciale Goldman sur TF1, près de 4 800 000 fanas dans les deux cas. À signaler aussi la progression de MacGyver sur M6 et de la télé des années 80 sur la 3. Samedi, The Voice n'est pas sur une voie de garage, si j'ose dire. 6 400 000 téléspectateurs, c'est faible pour un lancement, mais c'est fort pour cette soirée, le deuxième étant le polar Cassandre, 4 millions de fidèles. Quant à hier, c'est le film de la une, Ange et Gabriel, qui rafle tout. 5 300 000 personnes devant 9 mois ferme, 5 300 000.
Alors, que nous disent les audiences médiamétrie pour la soirée de samedi? Pardonnez-moi, on vient de faire... Non, on vient de faire, oui, on vient de faire samedi de dimanche, excusez-moi.
Il faut que j'aborde. Ah bah hier, c'est le film Ange et Gabriel, 5 300 000 téléspectateurs.
Samedi,
c'est The Voice.
Je deviens fou, moi.
Vous réécouterez, le podcast, vous verrez. Tout y est.
Oh, c'est grave. Bon, alors, vous me prenez un rendez-vous tout de suite chez un neurologue.
On va passer à Bernard Lehut et Jean Tellet.
Non, c'est, je me reprends parce que c'est mon choc. Donc, maintenant, nous parlons de notre soirée de ce soir lundi. Nous sommes bien d'accord?
C'est ça.
Et vous êtes bien aimables. Alors, une soirée variée, qui varie entre M6, qui regarde ce que sont devenus les anciens candidats d'abord dans le pré. Ah, bah, ça, vous adorez. Entre le bon polar de la 2, Unité 42, sans oublier Camping Paradis sur TF1.
Oui, pour la première fois, l'acteur principal, Laurent Onac, Tom Delonge, passe derrière la caméra. On ne peut pas dire qu'il soit excité, hein, c'est le 59e épisode, avec toujours le retraité acariâtre, M. Parizeau, pas le nôtre. Hein.
Alors, Delorme, vous nous préparez quoi pour ce soir?
Oui, bah là, j'avoue, j'ai pas réussi à sortir grand-chose de mon chapeau. Hein.
C'est pas pour vous enfoncer, mais ça fait un petit bout de temps, il n'y a plus grand-chose dans votre chapeau. Hein.
Voilà, le décor est moins bien planté que les tentes, mais c'est très sympa. C'est aussi face à un doc de la 3 baptisé Passeport pour une nouvelle vie. On suit 5 familles qui décide de quitter une vie construite pour se lancer dans l'aventure, comme ce chef d'escale qui veut ouvrir un gîte dans le sud. Son fils fait ses adieux aux copains.
Attends, si tu veux, je vais te faire voir sur mon tel.
Ah ouais?
Là, on part de là à peu près. Ça fait 7 heures de route.
Gîte les Irèles.
Montre.
Et là, c'est ma maison.
Elle a l'air super grande.
Oh, c'est trop stylé.
Ça, c'est ma maison.
Voilà, c'est pas toujours euphorisant, mais c'est riche d'enseignements. Faut bien réfléchir, hein.
Bien. Alors maintenant, vous avez craqué pour un reportage de BFM TV dont tout le monde parle et qui se demande qui a tué François Fillon. Il est diffusé ce soir. Hein.
Exactement, c'est le premier reportage réalisé et produit par BFM TV. À mon avis, il y en aura d'autres parce que c'est une franche réussite. Il raconte en 52 minutes le cas Fillon et les 100 jours, grosso modo, qui ont fait passer le net vainqueur de la primaire de droite du statut de futur président déjà consacré quasiment à celui de chat noir de la politique. Et justement... Le sujet commence par un détail incroyable. En janvier 2017, François Fillon tire les rois avec son équipe. Or, la galette est truffée de fèves étranges que Thierry Soler, impressionné, photographie.
Ce qui frappe les uns et les autres, c'est que les fèves qui sont dans la galette des rois, c'est une petite fève normale, c'est un chat noir. Et partout dans les galettes, vous retrouvez des petits chats noirs.
Et un chat noir incroyablement grimaçant. Alors, sincèrement, j'avais pas envie de regarder ce doc, parce que le cas Fillon, pour moi, c'était plus de l'actu et pas encore de l'histoire. Mmh. Or, moi, j'adore l'histoire. J'avais tort, parce que j'adore le polar, hors en est un. Tout le monde parle et de façon incroyablement libre. Les journalistes du Canard, évidemment, les vrais amis, les faux culs, Rachida Dati, incroyablement cash. Alors je vous renvoie aux différents chapitres où tout est dit, rien n'est omis, et très bien décrit. Mais si ce doc est si passionnant, c'est parce qu'un homme se lève pour dire « c'est moi qui ai tué François Fillon ». Et c'est vrai. Cet individu, c'est l'avocat Robert Bourgi, le genre d'homme dont on a besoin sans s'inventer. Or cet homme aime sincèrement François Fillon, au point de l'offrir deux costumes. C'est à ce moment-là désintéressé. Sauf que François Fillon le remercie par texte, puis prend ses distances. Ce silence jugé méprisant agace Robert Bourgi et entendre François Fillon attaquer publiquement Nicolas Sarkozy que lui aime, ça l'exaspère. Alors il décide de se venger et prévient Nicolas Sarkozy.
Sarkozy ne m'a jamais dit tue-le. Il m'a dit tu es décidé. Je lui ai dit je vais le niquer Nicolas, tu me connais. L'expression il ne m'a pas retenu le bras, ce qui est la réalité. Mais même s'il m'avait retenu le bras, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Quand les costumes ont été prêts, ils m'ont téléphoné et je suis allé payer. Par chèque, bien sûr, par chèque. Je n'ai pas travaillé 30 ans avec M. Faucard pour rien, madame. Je savais ce que je faisais.
Et oui, fin de l'acte 1. Acte 2, il appelle le JDD, leur donne l'info et le montant de costume pour 13 000 euros. Le JDD, qui fait bien son travail, appelle François Fillon, qui s'affole et affole les siens. La preuve avec son ami de 40 ans, enfin 40 ans jusque-là, Jean de Bois-Hu, qui raconte.
Et je suis allé le voir, il m'a dit, il y a une histoire de costume. J'ai dit, mais quelle histoire de costume? Il me dit, je me suis fait piéger. Je le reconnais pas. Il marche nerveusement dans la pièce. À ce moment-là, rentre Anne Méo et dit, t'en as encore beaucoup des comme ça pour moi.
Oh la vache.
Voilà, la dire comme de François Fillon. Anne Méo accuse le coup. Elle et François Fillon tentent alors évidemment à 4 reprises de joindre Robert Bourgi, qui goûte à ce moment-là avec ses petits-enfants au Bristol. Il les fait attendre volontairement et puis quand même, il finit par décrocher.
Il me dit, Robert, je me suis laissé dire que demain, le JDD sortait un article sur les costumes. Comment est-ce possible? Je lui dis, écoute, moi je sais pas, tu sais, il y a des fuites partout. Hein. Je sais mentir quand il le faut. Hein. Et je savais que l'homme était déjà atteint, qu'il était terrorisé. Anne Méo, je la rappelle. Bonjour ma grande. Elle me dit, Robert, qu'est-ce qui se passe? François est dans tous ses états, mais c'est la fin de François. Je lui dis, écoute, moi je sais pas, hein. Mais est-ce qu'il n'est pas possible d'arrêter le JDD? Lui dis-je de manière fourbe. Il faut être fourbe quelquefois. N'humiliez jamais un être. Tôt ou tard, il vous le fera payer. Ne l'humiliez jamais.
Voilà.
Bon, bah, je ne prends pas Bourgi comme copain, moi, ouais, c'est ce que je retiens de tout ça.
Tout est de cette véracité-là. Donc c'est effectivement à voir ce soir sur BFM Télé.
22h40, c'est bien ça?
Oui.
On se retrouve dans un instant avec des cadeaux pour vous et puis pour se dire au revoir et accueillir Julien Courbet.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Entrée dans la danse, le dernier roman de Gentelet sort donc jeudi chez Julliard. Dans quelle ville se situe l'action, cher Bernard Lehu?
Strasbourg.
Et en 1518, si vous nous avez appelé au 3210, vous avez donc gagné le roman de Gentelet, qui sera par ailleurs l'invité de Stéphane Bern vendredi à 11h dans son émission. Merci à toute l'équipe. Et avant de retrouver dans quelques instants l'émission de notre camarade Julien Courbet, tout d'abord cette info RTL de dernière minute dans l'affaire de la mort d'Alexia Daval, la joggeuse retrouvée morte en octobre dernier dans la Haute-Saône. Son mari, Jonathan Daval, a été arrêté et placé en garde à vue ce matin à 9h. Olivier Bois, c'est une information que vous avez glanée pour nous.
Oui, interpellé par les gendarmes ce matin, c'est l'homme qui est au centre de cette affaire puisque c'est lui qui avait signalé la disparition de sa femme. Le samedi matin, il appelle les gendarmes à 12h20 pour dire que sa femme est partie en jogging et qu'elle n'est jamais revenue. Elle avait été retrouvée 2 jours plus tard, morte dans un bois juste à côté de la ville de Grès. Alors il a été interpellé ce matin. Les gendarmes ont des questions à lui poser. On ne sait pas à ce stade ce qu'ils ont à lui reprocher. En tout cas, il est dans les locaux des gendarmes pour s'expliquer, pour répondre à leurs questions.
Information RTL signée Olivier Bouet. Nous y reviendrons bien entendu dans nos prochaines éditions. Il est 9h32, bonjour Julien.
Bonjour Yves, comment allez-vous?
Ça va très bien.
Bon, un beau week-end télé, en tout cas, il y a eu plein de choses. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé, non mais c'est vrai. Avec, moi j'ai déjà vu The Voice, vous imaginez? Quand moi j'ai vu le Pascal Obispo, quand il s'est mis à pleurer, là, quand il a vu la chanteuse chanter Lucie, oui. Comme c'était son œuvre.
Où est-ce que vous nous emmenez là?
Non, pas du tout. Non mais ça m'a touché, je vous le dis, parce que j'avais envie de partager ça.
Ça vous a touché, vous?
Mais je bon, sais ce qu'il a ressenti. Moi j'ai vu un jour un type poser une fenêtre à Refnette, j'ai ressenti la même chose. J'ai dit, voilà, c'est mon bébé, tu es en train de... Oui. Vous savez, c'est l'accomplissement d'une vie, tout ça.
Oui,
voilà.
Mais bien, oui, c'est une réalisation dans tous les sens du terme.
Et Federer qui gagne la finale à 36 ans. On est compte, il est plus qu'à 50 ans du record de Philippe Bouvard. Il y a quand même eu des trucs ce week-end.
Oui, c'est passé beaucoup. Je réalise maintenant, en vous écoutant, qu'il s'est passé beaucoup de choses.
Allez, je vous souhaite un bon week-end.
Bonne émission.
Ciao, ciao.